deux artistes qui sont de générations différentes et qui, à travers leurs propositions visuelles, interrogent de manière très particulière cette question de la singularité, de l'identité et de l'altérité. Donc, je vais vous montrer une partie de leur travail, mais surtout, je vais insister plus particulièrement sur deux interventions qui ont lieu en milieu urbain, l'une à Dakar et l'autre à Los Angeles, et en essayant, bien entendu, de vous parler un peu des habitants, des citadins, donc de ces spectateurs particuliers des interventions en milieu urbain. Alors, de mon point de vue, juste pour commencer, je voudrais dire que l'œuvre n'est pas neutre. Pour moi, en tant qu'historienne de l'art, elle est située. Elle est située parce qu'elle appartient à une histoire, à une culture, aussi à une histoire des représentations, à un imaginaire et à une organisation sociale, ainsi qu'à des rapports d'échange et de pouvoir. Et donc, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de me pencher sur des récits qui souvent ont été un peu en marge de l'histoire occidentale, des récits qui appartiennent d'une certaine manière à l'histoire occidentale, mais qui étaient des récits et des œuvres mineures, et qui, au jour d'aujourd'hui, retrouvent peu à peu une place, finalement, dans cette histoire et dans cette histoire de l'art contemporain. Je voudrais dire aussi que je considère que l'œuvre est un phénomène et une expérience, et qu'il est nécessaire pour appréhender une œuvre d'être confronté véritablement à elle et de finalement avoir recours à la fois aux percepts, aux affects et aux concepts qu'elle sollicite. Qu'il est important de la pratiquer, que pratiquer l'œuvre d'art contemporain permet souvent d'élaborer des cheminements critiques, mais aussi d'élaborer une subjectivité. J'ai envie de dire que pour moi, l'œuvre d'art contemporain, en tout cas, permet une transformation de l'individu. C'est mon credo. Donc voilà, et qui peut permettre à chacun d'entre nous, finalement, de développer une singularité plus grande. Alors, j'avais aussi envie de citer deux personnes, Jacques Rancière, juste parce que j'aime son idée de partage du sensible quand il parle de l'œuvre d'art, mais aussi Hans Robert Jauss, qui, dans l'esthétique de la réception, parle de ce moment de communication qu'est l'œuvre, et pour lui, entre autres, en simplifiant évidemment sa pensée, il parle d'une expérience de l'autre et d'une expérience subjective et intersubjective à travers l'œuvre. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement. Alors on va commencer par quelques images. Les images, vous verrez, ne sont pas forcément liées toujours au texte hein, et à ma parole. Donc ici, nous voici à Dakar en 2004, dans une performance ou un event de David Amonds qui s'appelle « Tombola de moutons ». Donc cet événement a lieu dans le cadre d'un événement singulier qui est la Biennale d'art contemporain de Dakar, donc une des grosses biennales d'art contemporain d'Afrique. Et David Amonds a organisé pendant 6 jours une loterie gratuite sur le coin de l'avenue Bourguiba, une partie très populaire du quartier du Point E, donc dans la capitale sénégalaise. Chaque jour, des animateurs parcouraient d'autres quartiers de la ville et distribuaient gratuitement des billets de loterie écrits en français ou en wolof, tout en annonçant l'heure du tirage de la loterie. En général, c'était vers 16 heures. Donc le tirage avait lieu sur une plateforme, la plateforme d'un camion ambulant, une scène rouge et jaune, aux couleurs du sponsor Magie, grand fournisseur des bouillons utilisés en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et il y avait donc 2 gagnants par jour qui repartaient, chacun avec un mouton. Donc ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est qu'il y a une rencontre à travers cette œuvre entre les USA et l'Afrique. Donc, pour vous présenter David Amonds, il est né en 1943 aux USA, dans l'Illinois. Il a rapidement conscience de son identité noire. Il a notamment vécu la ségrégation dans sa ville natale, à l'aube du mouvement des droits civiques. Et son travail va petit à petit s'inspirer des réalités quotidiennes. C'est-à-dire qu'il va les réinvestir dans ses créations pour révéler certains mécanismes sociaux ou politiques et transformer, grâce à ces images métaphoriques, la réalité de la vie concrète. Donc sa démarche est à la fois conceptuelle, figurative, éphémère, in situ. Amonds se définit comme un magicien noir. En fait, il définit son processus créatif par une référence à la spiritualité, mais une spiritualité qui n'est pas religieuse, mais qui fait plus référence à ses origines africaines, c'est-à-dire la magie noire, l'animisme, de la cosmogénie, etc. Il fait référence aussi à l'idée d'une constante naturelle de l'homme qui finalement le préoccupe en permanence malgré le fait qu'il soit un homme des villes puisqu'il va s'installer dès 1975 à Harlem et qu'il va vivre dans ce quartier de New York. En tout cas, pour lui, cette dimension spirituelle, il la définit comme un principe animé ou vital tenant à donner la vie à des organismes physiques. Il s'agit d'invoquer l'esprit, l'énergie, la vitalité par les signes. Alors à partir de 1975, donc quand il est à Harlem, il a l'habitude de se promener dans les rues et finalement il marche dans la rue à la rencontre des gens, à la rencontre des objets, à la rencontre des images. Et voilà ce qu'il dit. Je sens que mon travail artistique fait référence à mon environnement dans son entier, à mon état d'être humain, noir, politique et social. Même si je suis impliquée dans des relations avec les autres, je crois que mon art seul est vraiment ma déclaration artistique. Pour moi, il doit l'être. Donc Ammons, en même temps, assez rapidement aussi, se défend de produire un travail politique qui ferait essentiellement référence à la couleur de sa peau. La blackness lui permet de poser en fait les jalons d'une pratique visuelle qui emprunte à la fois à la culture et l'héritage afro-américain, mais aussi d'une manière plus large à des pratiques dites de l'art occidental, à savoir par exemple Dada, les ready-made de Duchamp, l'art conceptuel et puis l'arte povera dont il aura connaissance. En tout cas, ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que son identité noire n'est pas là comme une illustration, mais elle lui permet de questionner le statut de la culture noire contemporaine et aussi les conséquences de l'héritage historique de l'esclavage sur la mémoire collective afro-américaine. Donc son atelier est situé dans la 125e rue de Harlem, qui est un lieu très animé du quartier noir. Et donc c'est la rue qui motive ses créations. Donc voilà ce qu'il dit. Je pense que je passe 85% de mon temps dans la rue. Quand je retourne dans mon atelier, j'attends de réagir à toutes les expériences urbaines que je vis, toutes les choses que je vois socialement. Les conditions sociales du racisme transpirent comme de la sueur. Je réponds à la condition sociale de New York. Donc dans ces rues, il cherche finalement des petits éléments significatifs de la culture afro-américaine, des petits éléments qui lui permettent de travailler à coût réduit et qui sont chargés d'une expérience antérieure, qui sont en fait chargés de ce qu'il appelle donc cette énergie spirituelle qu'il va rejouer en leur donnant une nouvelle attribution et une nouvelle fonction en tant qu'œuvre d'art. Il défend donc l'idée d'une culture populaire, d'une culture vivante, et recourt à une sorte de contre-système, c'est-à-dire la culture afro-américaine, avec un emprunt de morceaux de vie, de morceaux d'environnement. Alors on peut montrer quelques pièces. Encore, merci. Alors là, par exemple, cette pièce-là fait partie d'une série de pièces sur la bêche. Donc la bêche, cet outil qui sert à creuser. La bêche fait à la fois référence au masque Yoruba, qui est une des cultures africaines présentes chez les anciens esclaves afro-américains. C'est donc à la fois un objet historique, culturel et social, et puis c'est aussi une manière de faire référence à la situation concrète des Afro-Américains à l'époque. Hein. C'est une pièce qui date de 1972. Spade, en argot, veut dire est une insulte raciste. Pardon. Donc il va jouer tout le temps à la fois des objets et à la fois souvent de la manière dont son... de jeu de mots, de la manière dont sont nommés ou font écho ces objets à des jeux de mots dans la vie quotidienne. On peut voir un autre objet qui m'intéresse aussi, qui appartient à une série, la Bag Theory. En fait, Ammons, à ce moment-là, a commencé à récupérer dans la rue des sacs en papier craft, qui bien souvent servaient à porter l'alimentation, hein, des achats alimentaires, mais aussi comme lieu de poubelle, où on place les os des côtes de porc qu'on a mangées, il y a des traces de graisse, etc. Et donc, il va utiliser ces sacs en papier, car ce qui l'intéresse, c'est la dimension alimentaire de la culture afro-américaine. Il dit qu'une grande partie de la culture afro-américaine est marquée, en fait, par son alimentation par des habitudes qui sont directement issues de la période de l'esclavage, notamment dans la préparation des viandes et des légumes frits dans l'huile. Donc évidemment, ce travail-là va susciter une polémique à la fois chez les artistes afro-américains et dans le milieu de l'art contemporain. Par la suite, il va travailler sur le cheveu. Et puis, il va aussi travailler sur des bouteilles vides qu'il récupère dans les espaces urbains de Harlem, et notamment sur les terrains vagues, et qui va réinvestir sur ces mêmes terrains en fabriquant, par exemple, ce qu'il appelle des arbres à bouteilles. Les arbres à bouteilles sont, d'une certaine manière, font référence à des rites Congo, pareil, issus de ces cultures des anciens des esclaves afro-américains. En 1982, il investit un panneau lumineux à Times Square avec une bouche d'incendie typique des rues de la ville. Et donc, ce panneau, tu peux passer l'image, s'il te plaît. Voilà. Ce panneau crache une grande flamme sur lequel se détache l'inscription Harlem. Donc, en s'appropriant un support publicitaire et en déplaçant cette image stéréotypée du ghetto noir vers ce quartier commercial et touristique de New York, Amont transmet une information fugitive pour un public qui ne s'est jamais vraiment déplacé à Harlem. Bon, à cette époque-là, Harlem reste encore un quartier populaire, voire dangereux, etc. Et finalement, il fait les pleins feux sur ce quartier. Il intitule son intervention « Message to the public » et joue de la provocation. Ce qui l'intéresse, c'est de déterritorialiser Harlem. Il refusait la ghettoisation et finalement d'ouvrir le quartier, de pousser à son ouverture, de pousser à son mouvement. Alors, par là même, il touche à une notion qui a beaucoup intéressé des penseurs afro-américains, je pense, ou des gens qui se sont intéressés à cette culture. Et je pense notamment à un livre, L'Atlantique noir, de Paul Gilroy, qui fait un parallèle entre la culture des afro-américains et les nomades. Sa théorie est de dire que les Afro-Américains sont finalement, en tant que peuple marginalisé et déterritorialisé, une sorte de peuple nomade, c'est-à-dire un peuple composé, dont les images culturelles composent une mosaïque qui envahit souvent l'expérience quotidienne. Afro-Américains et nomades refuseraient l'idée de cloisonnement, que ce soit dans leur production artistique ou dans leur mode de vie. Et tous deux seraient finalement gouvernés par l'idée d'un foyer qui ne serait pas un foyer réel, mais un foyer mythique, spirituel. La pensée nomadique d'Amont est donc liée à la fois à sa manière de se focaliser sur une pensée ancestrale, je l'ai dit un peu tout à l'heure, sur un espace en mouvement, et aussi sur des formes contemporaines de dérive urbaine, et à l'image des sans-abri, j'ai parlé tout à l'heure des bouteilles qu'il trouvait, etc., à l'image des sans-abri, il pratique lui aussi d'une certaine manière des dérives urbaines, les sans-abri qui sont métaphores de ceux qui n'ont plus de foyer. Un point essentiel pour Amont aussi dans sa pratique, c'est la réaction du public. S'il travaille dans la rue, c'est parce qu'il cherche la réaction des gens de la rue. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi devrais-je perdre mon temps en faisant quelque chose pour ce public de l'art? Je me tourne vers le public de la rue. Ce dernier est beaucoup plus humain et son opinion vient du cœur. Ces gens n'ont aucune raison de jouer un jeu, ils n'ont rien à perdre ou à gagner. Alors, assez rapidement, des critiques associent son travail à l'idée d'une sculpture narrative, c'est-à-dire d'une sculpture pour laquelle l'oralité est fondamentale, la prise de parole, le dialogue. Et effectivement, dans beaucoup de ses propositions, la communication, pour Amont, est importante. Il cherche le dialogue. Les questions qui lui sont posées, par exemple quand il intervient dans l'espace public, lui permettent de comprendre les réactions qui sont suscitées par son travail, de les réintégrer éventuellement à sa production et aussi de tourner son travail en dérision, voire même d'échapper à l'analyse. Il va toujours tenter d'échapper à l'analyse et au travail que je fais actuellement, par exemple, plutôt recourir à une forme de récit. Alors, en 1983, il crée, tu peux passer des images, hein, il crée une pièce qui est très célèbre, que je n'ai pas là de manière volontaire. C'est une pièce qui s'appelle Blizzard Bell Stage, qui consistait en fait à faire des... Il faisait très froid, c'était l'hiver, il neigeait à New York, et il a fait des boules de neige, Il s'est placé dans un quartier de New York, à Copper Union, dans la rue, à côté de d'autres vendeurs, et il s'est mis à vendre de manière anonyme ses boules de neige à 1 $ à peu près la boule. Et évidemment, ça rejouait cette question de l'échange et de la communication dont je parlais, tout en rejoignant aussi la question de l'objet d'art et de la fétichisation de l'objet d'art, parce que par excellence, la boule devait disparaître assez vite. Et malgré tout, quelques collectionneurs les ont gardés, enfin des gens qui avaient pris acte de ce geste, les ont gardés longuement et les ont vendus par la suite sur le marché de l'art. C'est un geste qui lui a profondément dérangé et c'est aussi une performance qui a souvent été citée. Il a l'habitude de dire que finalement, cette performance était un peu un objet de marketing pour lui et il préfère moins en parler aujourd'hui. Mais bon, elle est quand même très intéressante et vous pouvez trouver des images assez facilement. Alors, ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'Amont n'utilise pas seulement la rue comme source d'inspiration, il la nourrit donc de ses productions, ce qui fait que la rue, pour lui, c'est comme l'espace muséal, c'est un espace qui est conçu socialement. C'est un espace dans lequel il y a des rapports de force, il y a des rapports culturels, il y a des rapports politiques. Alors, à partir de 1986, il s'intéresse, par exemple, à un sport, le basket, sous forme d'un grand projet urbain. Il va ériger des poteaux téléphoniques dans l'espace public de Harlem, toujours, sur lesquels sont placées des milliers de capsules. L'érection des poteaux, en général, se fait sous forme d'un rituel. Alors, il y a des personnes qui sont masquées, qui érigent les poteaux, etc. Au sommet du poteau, il y a toujours des objets, soit une roue de bicyclette ornée de plumes, qui évoque un bouclier indien, soit autre chose. Ce qui l'intéresse, c'est la notion de bricolage et la notion d'hybridité. Ces performances font allusion aux nombreux paniers de basket qu'on retrouve à Harlem, qui sont souvent bricolés par les gens, paniers de basket en sac en papier, en cajou, etc. La proposition va connaître un vrai succès parmi les jeunes. Ça va donc se créer du débat. Et puis, l'année suivante, il va relancer le projet un peu différemment, en donnant un nouveau nom à ce projet, Higher Goals, qui veut dire but plus élevé. Et son projet, en jouant du mot, quoi, enfin de l'expression but plus élevé, et une critique de la place qu'a pris ce sport, le basket, au sein de la population jeune afro-américaine, qui finalement a tendance à plus croire à une possibilité de réussite sociale à travers ce sport que par d'autres moyens. Donc c'est un moyen de souligner ce sport-là tout en le rejoignant autrement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il utilise les matériaux, par exemple les capsules de bouteilles, il va créer des motifs qui évoquent à la fois des mosaïques africaines, des mosaïques islamiques, etc. En tout cas, ces capsules possèdent pour Amont un esprit. Elles sont une sorte de peau de la sculpture. Et la mémoire du matériau, leur usage, l'intéresse. Pour lui, leur assemblage donne une force et une présence spécifique à ce matériau. Alors, Amont est aussi finalement assez vite intégré dans le milieu de l'art contemporain international, tout en essayant d'opérer un écart et de garder un écart. Et il va quand même entrer dans les galeries, dans le système des galeries et des musées, tout en disant que ce qu'il cherche à faire, entrer dans les galeries, c'est ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire le monde social, le monde de la vie quotidienne. Ce qui est dehors, ce qui est de l'autre côté de la porte. Il va toujours affirmer qu'il essaye de ne pas faire d'objets pour le marché de l'art. Et lors d'une de ses premières grosses expositions, qui est même une rétrospective au PS1 à New York en 1990, qui est donc un des temples de l'art américain et de l'art contemporain, il va réaliser une action très particulière dans l'exposition proprement dit. Il va demander lors du vernissage à deux formes d'expression afro-américaine, le jazz et le basket, de se réunir. En fait, il va inviter une équipe de basketteurs de rue à venir jouer parmi ses œuvres dans la salle du PS1, mais ils vont jouer au rythme d'une musique de jazz interprétée par des musiciens. Et lui considère cet événement à la fois comme un opéra sportif, à la fois comme un spectacle de rue et un numéro de cirque. Donc il y a toujours une dimension assez provocatrice et une dimension aussi burlesque, voire ridicule, qu'il revendique. Alors, je vais revenir à Dakar. Donc là, on peut passer les images de différents projets qu'il a menés. Je ne vous ai évidemment pas parlé de son œuvre, qui est une œuvre très riche et avec de nombreuses pièces. Donc, à Dakar, en 2004, l'intention était de donner quelque chose à ceux qui, d'ordinaire, ne peuvent rien tirer de l'art, dit-il. En fait, il a eu envie de quitter la logique conventionnelle du monde de l'art et de faire référence à un moment symbolique, social et religieux de la vie sénégalaise, qui est la Tabaski. En fait, si on reprend les images, donc le camion Sen stationnait à l'intersection de la rue Bourguiba et de la Voie du Nord, qui est un lieu de mémoire associé aux fêtes annuelles religieuses musulmanes, où les moutons sont sacrifiés pour l'Aïd. Il avait été choisi par l'artiste des musiciens et des chanteurs de hip-hop populaires à Dakar qui réalisèrent une bande-annonce qui fut diffusée sur les ondes de radio avec des flashs en français et en wolof. Il y a eu une grande affiche de réaliser par le designer égyptien Ramed Elias qui montrait donc un jeune garçon tenant un mouton dans ses bras. Si tu peux la passer. L'affiche figurait sur le site. Elle était également distribuée en petit format dans les supermarchés, les marchés publics et les places. La plateforme, une fois installée, les annonces vocales commençaient, la musique démarrait. Ensuite, chaque animateur était présenté, chaque chanteur. Bon, au Sénégal, ça dure très longtemps, toutes ces présentations. Et toutes ces présentations permettaient au public de se grouper et d'attendre l'événement proprement dit. Donc les moutons étaient attachés au pied du camion. David Amand était assis au bout de la plateforme, surveillait la performance. Le tirage au sort avait lieu. Le gagnant remerciait la foule, saluait la foule, tirait le mouton derrière lui, ailait un taxi en général et puis faisait grimper le mouton dans le véhicule après avoir renégocié la course. Donc la performance ou l'event de Amand s'inscrivait dans une esthétique et des rites populaires en utilisant là aussi des matériaux locaux. Il est proche des traditions et des fêtes populaires et très loin des installations et des vidéos présentées dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Dakar. Il critique ouvertement le monde de l'art, les relations de l'art et de la politique, et notamment les biennales africaines, qu'il considère qu'elles échouent dans leur public, qu'elles sont plus destinées à des audiences internationales et non pas à des audiences locales. Il s'affirme aussi contre la fétichisation et la normalisation des œuvres. Donc, pour Amand, il faut réintroduire cette notion de spiritualité dont je parlais tout à l'heure, de l'émotion et du secret. Et c'est pourquoi il va finalement privilégier le processus et le rituel plutôt que le produit final. Il va donc rejouer l'idée d'acte performatif dans le contexte de l'Afrique. Alors, il faut évidemment s'intéresser à la question et à la signification du bélier en Afrique pour comprendre la proposition. Donc le bélier dans la culture d'Afrique de l'Ouest est un animal extrêmement utilisé. C'est un animal qui a une importante valeur dans la vie quotidienne, aussi bien dans l'animisme que dans l'islam. Bon, vous savez, à la fin du Ramadan, donc il est donc sacrifié selon une tradition émanant d'Ibrahim Isaac dans les maisons musulmanes. Et en tout cas, à Dakar, comme dans le reste du Sénégal, on le voit se promener devant les maisons. Il est souvent considéré comme un gardien, gardant la maison loin des esprits maléfiques. Il est symbole de pureté, d'innocence, sacré, etc. Et donc, il est aussi de plus en plus un signifiant du syncrétisme religieux, une sorte d'hybridité culturelle, en fait. Même à Dakar, finalement, dans la ville, on voit ces moutons qui, à l'origine, vivaient plutôt dans les campagnes, se balader librement, presque, avec parfois des gris-gris au cou, etc. En tout cas, tous ces béliers attendent d'être sacrifiés. Donc là, moi, ce qui m'intéressait dans mon interprétation, après être allé à Dakar et avoir essayé de comprendre quelle était la teneur de la proposition, je me suis rendu compte que, d'une part, la proposition avait connu d'importantes critiques. Il lui fut notamment reproché d'adhérer à la logique habituelle du marché. En fait, les tombolos de moutons sont pratiqués très régulièrement au Sénégal, donc notamment lors des campagnes commerciales. Après, il lui fut aussi reproché d'adhérer à la logique de peu de gagnants, beaucoup de perdants, puisque finalement, il n'y avait que deux gagnants par jour. Ensuite, on lui a reproché de valoriser le sponsor multinational Magie, Nestlé, qui a un passé assez peu respectable en Afrique, et de poursuivre une sorte de logique humanitaire en plus. Mais quand on s'intéresse plus précisément à la proposition, on s'aperçoit qu'en fait, peut-être qu'elle contient potentiellement toutes ces critiques, c'est sûr, mais qu'elle est aussi un jeu de redistribution lié à ce jeu de hasard qu'est la loterie, qu'elle met effectivement en valeur la culture populaire, l'échange, la transaction, la discussion, le lien, le déplacement. Elle permettait à des gens des différents quartiers de Dakar d'aller vers le centre-ville, mais aussi le déplacement du milieu de l'art dans les quartiers populaires, dans la rue, et donc finalement le milieu de l'art avait une autre expérience de la ville. Et puis, moi, ce qui m'intéressait encore plus, c'était l'aspect donc spirituel sur lequel j'ai insisté, parce que quand on s'intéresse un peu à l'histoire du Sénégal, on s'aperçoit que la question du sacrifice a été notamment travaillée par le président Léopold Sédar Senghor, qui, dans un ouvrage qui s'appelle « Pensée africaine » de 1965, affirme que le sacrifice agit comme figure d'ancêtre. Donc moi, je me suis attachée à cette phrase-là, c'est-à-dire, je me suis demandé si finalement, Amantz, venant à Dakar, n'était pas venu faire un sacrifice, c'est-à-dire rejouer au niveau métaphorique la question du sacrifié et du sacrificateur. Le sacrifice étant le lien entre l'ancêtre et le sacrifié. Pour Senghor, le sacrifice permet un dialogue entre l'ancêtre, le sacrifié, le tu et le je, dit-il. Donc finalement, la tombola de mouton de David Amantz n'est-elle pas une manière de provoquer une introspection chez les gens, hein, dans la rue, de les faire retourner vers leurs ancêtres, de les faire retourner vers un art africain, voire même vers l'art nègre et les arts nègres défendus par Senghor, le festival des arts nègres, et d'une certaine manière à exorciser la biennale pour lui redonner une puissance, une force symbolique. Alors, cette proposition de lecture de cette pièce peut s'appuyer sur d'autres artistes africains qui, eux aussi, ont utilisé cette référence au sacrifice comme étant un moyen, finalement, de dépasser une situation soit de colonisation, soit de soumission, soit d'assujettissement. Je pense, par exemple, à Ousmane Sambéné, qui est un écrivain, réalisateur, acteur et scénariste sénégalais, et qui, dans un ouvrage, « Les bouts de bois de Dieu », racontait la grève des cheminots de 47-48 au Sénégal. Et il y avait cette figure d'un... Il y avait un mouton dans cette histoire, un mouton bien nourri, très gros, très gras, qui était très passif et qui finalement était sacrifié, lui aussi, pour soutenir la grève des cheminots par les femmes des cheminots. Mouton très gras qui avait été souvent considéré par les gens qui ont analysé cette œuvre comme étant représentant... du colon ou de la situation de la colonisation. Voilà, je pourrais aussi parler de Souleymane Cissé qui, dans un film, Le Vent, en 1982, avait lui aussi montré une figure du sacrifice et du sacrifié à travers le mouton. Sur cette même idée qu'il est nécessaire de retourner vers les ancêtres pour être libre, pour être soi, mais retourner vers les ancêtres veut dire passer quand même par de nouvelles formes, par la création de nouvelles formes esthétiques, plastiques, etc. Alors maintenant, je vais vous parler d'un deuxième artiste qui m'intéressait, celui-ci, Isaac Julien, avec cette pièce « Truth North » qui date de 2005. Donc il s'agit d'un panneau publicitaire sur Sunset Boulevard dans West Hollywood, à Los Angeles. Sur ce panneau, donc, on voit trois personnes marchant dans un paysage de neige, saturé de nuages, et ce panneau se trouve le long d'une route avec des palmiers, des voitures, etc. Donc, Truth North est à la fois un film, une série de photos issues de son film et une installation. La proposition a donc été présentée au musée au même moment, enfin au musée de Los Angeles, au même moment qu'elle était posée dans la rue. Ce qui est important de dire tout de suite, c'est que Isaac Julien se situe au croisement du cinéma documentaire, des arts plastiques et développe actuellement une grammaire de l'installation audiovisuelle. Donc c'est un artiste qui est né en 1960, donc beaucoup plus jeune que David Ammons, qui est né lui à Londres, qui est donc anglais, et qui est d'origine caribéenne. Donc il a commencé son parcours par la réalisation d'un long métrage et des documentaires tels que Badass Cinema en 2002, qui est un montage complexe sur les différents aspects du cinéma afro-américain engagé, dit Blaxploitation, dans les années 70 aux États-Unis. Donc dès leur début, ces recherches formelles sont traversées par le questionnement, là aussi, d'une identité noire au sein d'une conception occidentale du monde et d'une culture mondialisée. L'identité noire est ici conjuguée avec la volonté de construire une approche plurielle de l'analyse ethnique et raciale. Et donc on va voir que l'artiste tend à produire une œuvre qui suggère des interactions entre plusieurs périodes de l'histoire culturelle récente. Donc la conscience politique de l'histoire se trouve de façon très affirmée dans cette pièce-là que vous voyez, Baltimore, qui date de 2003, donc qui poursuit ses recherches sur le cinéma de la Blaxploitation. Donc Baltimore, en fait, c'est une pièce avec une figure centrale, Melvin Van Peebles, qui est un réalisateur du film culte Sweet Sweetback Badass Song en 1971. En fait, il s'agit d'une pièce qui est un triptyque, trois écrans, trois images. Et l'œuvre permet de proposer un récit qui renvoie donc à la culture noire aux États-Unis, passée, présente, mais aussi future. Ça, c'est très important. Donc, ça fonctionne un peu comme un film à suspense. Il y a deux personnages, donc Melvin Van Peebles et Vanessa Miri, qui est donc cette jeune femme là qu'on voit sur la droite de l'écran, qui joue une afro-cyborg et qui rappelle à la fois l'icône politique Angela Davis et Pam Grier, qui est, elle, une icône de la Blaxploitation. Donc, tous deux parcourent la ville de Baltimore, l'un à la suite de l'autre, et l'un à la poursuite de l'autre, et ils traversent ainsi le National Great Blacks dans Wax Museum, un musée populaire où sont exposées les figures en cire des personnalités noires historiques, comme Martin Luther King, Billie Holiday, Malcolm X. Et puis ensuite, ils vont dans le Walker Art Museum, qui conserve une importante collection d'œuvres datant de l'Antiquité à nos jours. Donc au fil des rencontres, Isaac Julien assigne à ces personnages un rôle de passeur entre deux histoires parallèles, entre une culture populaire et une culture savante, et crée une confrontation inédite qui bouleverse la linéarité de l'histoire occidentale. Donc là, on voit une image de ces films de la Blaxploitation. Tu peux continuer. Donc là, c'est l'héroïne dont je parlais tout à l'heure, Pam Grier. Et là, elle est rejouée donc par cette artiste, actrice Vanessa Miri, pour le film de Isaac Julien. Alors maintenant, j'en viens tout doucement à ma pièce Truth North. Donc en 2004, le thème du voyage apparaît comme étant un élément central et important du travail de Isaac Julien. Alors ce qui m'intéresse dans Truth North, c'est que Isaac Julien rejoue la figure du voyageur. Et donc la figure du voyageur est pour lui une métaphore de la traversée, une métaphore du voyage moderne. Voilà, qui peut être une expérience des autres. Donc Truth North est un film qui a été tourné en Scandinavie. Elle retrace l'histoire de Matthew Hansson, le premier explorateur afro-américain à atteindre le pôle Nord en 1909, un explorateur qui a travaillé pendant 18 ans auprès d'un autre explorateur, l'explorateur blanc Robert Perry, et c'est Robert Perry qui a bénéficié en fait des succès de cette exploration et qui finalement a été reconnu comme étant celui qui a découvert le pôle Nord. Donc Truth North est une œuvre méditative, un récit fragmentaire consacré à Matthew Hansson qui décrivit sa participation à cette aventure dans un ouvrage qu'il écrivit en 1966 qui s'intitule The Negro Who Went to the Pole with Perry, I think I'm the first man to sit on the top of the world. Dont le négro qui est allé le premier au sommet du monde. Donc, en fait, Truth North propose une relecture des expéditions coloniales depuis le point de vue de Matthew Hansson. Pour Isaac Julien, Ce qui est important, c'est que le paysage est une archive en tant que telle, et donc il va travailler à partir de cette archive. Il va s'intéresser à l'inscription des corps dans le paysage, ceux des Afro-Américains, mais aussi ceux des Esquimaux, qui sont relégués bien souvent dans des rôles de subalternes à la suite des expéditions. Et il va s'intéresser aux distinctions culturelles nord et sud et à la notion de déplacement. La présence de personnes d'origine africaine, donc des acteurs au milieu des paysages enneigés de la Scandinavie, fournit un contrepoint visuel à la blancheur de ces paysages et contribue, dit Isaac Julien, à les dénaturaliser, à les transformer. Il dit « Je voulais montrer que ce paysage représentait cette étendue de blancheur dénaturée par la présence du sujet noir. » Les images de Julien tentent de déstructurer le récit linéaire du voyage de l'ethnographe ou de l'explorateur. Elles mettent en évidence la façon dont l'exploration de nouveaux territoires, qui ne sont nouveaux que si l'on adopte le point de vue du blanc, se produit inévitablement au détriment de quelqu'un d'autre. Les populations colonisées, les domestiques qui accompagnent le héros occidental, etc. Donc il fait rejouer ses rôles pour les réinventer. Les paysages qu'il filme, il essaye d'induire une nouvelle lecture en fait, de ces paysages. Et dans Truth North, il dit que les paysages deviennent sublimes, c'est le mot qu'il utilise, en ce sens qu'il s'agit d'une exploration renouvelée de l'espace, plan large, grand format, et d'une narration décalée du voyage de Hanson. Il n'utilise pas la photo comme photo descriptive, photo preuve ou trace. Il ne cherche pas non plus vraiment à rendre compte de l'activité des soi-disant explorateurs, mais de proposer plutôt une observation contemplative du paysage. Le paysage prend parfois une dimension quasi lyrique. Il s'intéresse à la notion d'espace géopsychique. Il dit « Je visualise un espace poétique et un espace créolisé ». Pour lui, donc, il est nécessaire que le paysage excède les visions impérialistes, historiques, scientifiques qui lui ont été attribuées. Le paysage ne doit plus vraiment correspondre à celui qui a été décrit par l'art européen, ni à une certaine forme de photographie, mais il veut jouer et ajouter des ethno-paysages, c'est-à-dire de nouveaux paysages visuels, émotionnels, mémoriels, pour fabriquer différemment les identités. Alors évidemment, sa proposition Truth North évoque aussi, par exemple, Robert Flaherty et son film Nanouk l'Esquimo. Enfin bref, il y a toute une série de références qui apparaît. Et donc travaille les traditions du documentaire, le romantisme du documentaire, la hiérarchie, le spectacle, l'exotisme, l'archive, l'idée de mémoire individuelle. Il cherche presque à obstruer la mémoire, à obstruer l'histoire, à travers un nouveau récit et à provoquer ce qu'il appelle des moments de désidentification par la méditation, par la poésie, par l'expérience d'une nouvelle subjectivité qui renvoie pour lui à l'expérience contemporaine. Alors ce projet-là, Truth North, a été mené avant un autre projet qui lui fait presque pendant, qui s'appelle Fantôme Créole, Fantôme Afrique, qui est une installation qui a été conçue pour Beaubourg en 2005. Fantôme Créole est composé de 4 écrans, si tu veux bien. Donc, elle assemble... alors, on ne va pas voir, malheureusement, mais je vous invite à aller voir le site de l'artiste. On voit très bien un extrait qui dure quelques minutes, puisque là aussi, ce sont des images filmées. Ça dure un long moment. Donc, en tout cas, il y a 4 écrans. Et sur ces 4 écrans, on voit des images de Scandinavie et en même temps des images du Burkina Faso. Il est allé au Burkina Faso... parce que ce qui l'intéressait, c'était le fait que le Burkina Faso, et notamment sa capitale, Ouagadougou, soit la capitale du cinéma africain. Donc il est allé au Burkina Faso. Là aussi, il a replongé dans les archives de l'époque, images de la ville, images de la colonisation, puis images de la ville d'aujourd'hui. Il a reconstitué des choses, mais il a aussi fait un film avec ses propres acteurs et il demande... à ces acteurs qu'on a vus tout à l'heure, Vanessa Mary et un autre acteur danseur, d'investir la ville. Il va finalement petit à petit trouver une structure de récit où toutes ces images, toutes ces différentes images, ces statuts différents de l'image vont être associés. Et je reviens donc à cette notion de créolisation qui m'apparaît importante aujourd'hui. Donc, dans Fantôme Créole, il tente là aussi de montrer un espace dénationalisé, déterritorialisé, qui n'est connecté à aucune grande civilisation, à aucune grande culture, mais qui est né de rencontres et d'échanges violents entre divers éléments. La narration de l'altérité culturelle est centrale dans son travail. Il cherche à donner forme à ce qu'il appelle une vision créolisée, c'est-à-dire qu'il entend inventer une nouvelle forme de narration à travers une esthétique qui refuse le réalisme. Alors, par créolité, généralement, on entend cette condition propre aux descendants d'esclaves africains dispersés dans la diaspora coloniale. Donc, il s'agit d'une condition marquée par la conflictualité, par la séparation du lieu d'origine, par des pratiques de domination fondées sur l'appartenance raciale. Il y a des créolisations, des créolités différentes selon les zones géographiques, etc. Lui cherche à donner ou à transposer sur le plan visuel cette notion de créolité, pour trouver une forme inédite à l'altérité, en fait. Il veut aussi, d'une certaine manière, rejouer cette notion de créolité au regard de la mondialisation actuelle. Et il cherche finalement à observer des endroits, une nouvelle cartographie de la créolisation, c'est-à-dire de nouvelles zones où ce processus de créolisation émerge en tant qu'espace de conflit et de contact. Donc, dans le cas d'Isaac Julien, le paradigme de la créolisation touche aux questions identitaires qu'il préoccupe, c'est-à-dire que c'est un homme anglais, il est gay, il est d'origine caraïbienne, etc. Donc, toutes ces questions se trouvent au centre de son travail. Mais en même temps, là, pareil que David Amond, il ne cherche pas particulièrement à parler au nom de tous ces gens-là, et il cherche plutôt à prendre la parole en son propre nom, c'est-à-dire à partir d'une position subjective, déterminée, qui n'est jamais démentie dans un faux universalisme, mais qui est au contraire assumée, revendiquée en tant que telle. Alors voilà ce qu'il dit. La façon dont je travaille n'est pas très éloignée de la pratique et du processus de créolisation. En premier lieu, j'observe les références, débats et textes, puis je m'éloigne de la théorie en rassemblant l'information visuelle, et enfin vient le montage qui fait émerger le sens. En un sens, j'invente une vision créolisée et mes travaux à écran multiple proposent un espace post-cinématographique qui porte la marque d'une pratique de la créolisation à plusieurs strates. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la différence de d'autres artistes contemporains, je pense notamment, par exemple, à Pierre Bismuth, à Douglas Gordon, à Pierre Huyghe, à Marc Lévis, dont les stratégies sont plus l'appropriation d'images qui préexistent et leur déconstruction, là, Isaac Julien cherche, lui, à construire, à inventer une construction nouvelle par la relation d'éléments, la mise en relation d'éléments hétéroclites, des éléments donc de sources différentes, et toute sa réflexion va être sur comment établir la relation entre ces éléments. Alors, il utilise différents types de collage ou de montage entre ces éléments. Par exemple, il y a l'emprunt au langage cinématographique et vidéographique, voire numérique. Il y a l'ellipse, il y a le flashback, il y a le morphing, il y a la pixelisation, il y a l'inclusion d'images étrangères au sein du plan, etc. Donc, toute une série d'opérations qui lui permettent de provoquer ce qu'il appelle des disjonctions. Il cherche à créer des juxtapositions disjonctives, ce qui veut dire par exemple qu'une image peut commencer sur un écran et se poursuivre sur un autre écran, ou disparaître, être remplacée par une autre. Enfin bref, les quatre écrans sont utilisés de manière très différente. Et dans cette disjonction, il espère que le spectateur crée du sens, crée de la relation, élabore lui-même une construction sans pouvoir jamais saisir l'ensemble des signes qui lui sont proposés. Par là même, il espère là aussi résister d'une certaine manière à la narration occidentale, c'est-à-dire à l'idée d'un récit objectif, d'une documentation sur le réel par un sujet unique, et plutôt à jouer d'une plurivision sur les choses, de laisser libre cours à des subjectivités diverses et contradictoires qui vont interagir dans la narration. Et finalement, il met en place un processus dialectique, c'est-à-dire qu'il met en place un processus qui va jouer des ambiguïtés entre les identités différentes de ces images et entre des éléments contradictoires. je voulais rendre donc hommage à Dominique Chateau parce que j'avais lu il y a quelques années dans cet ouvrage Vers une esthétique du métissage, ouvrage collectif, votre texte Métissage ou pluralisme, dans lequel vous clarifiez très clairement, enfin voilà, j'ai dit deux fois la même chose, mais pour insister sur cette idée de la dialectique dans l'art et la complexité dialectique de certaines propositions, aux dépens parfois de propositions, enfin, ou au contraire, pour mettre en évidence la complexité de certaines propositions, alors que d'autres jouent sur un éclectisme, si j'avais bien compris. Alors, je reviens donc sur Los Angeles. On peut passer, s'il te plaît. Donc, ça, c'est quelques images de Fantôme Créole. Je reviens et je termine sur Los Angeles avec cette photo à nouveau de Truth North. Et elle m'intéressait, cette photo, parce que provoque pour moi un nouveau récit dans cette ville de Los Angeles. Après tout ce que j'ai essayé de dire et de démontrer. Donc Los Angeles est la deuxième plus grande agglomération des États-Unis après New York City. Donc elle est, c'est cette ville qui s'appelle la Cité des Anges compte plus de 20 millions d'habitants. Elle est une ville cosmopolite et demeure l'un des points d'entrée d'immigrants les plus importants aux États-Unis, Gateway City. C'est une ville qui continue donc d'attirer énormément de gens grâce à son climat, son style de vie, l'opportunité d'y réaliser son rêve américain. C'est la ville évidemment d'Hollywood, du cinéma et des mythes de la nation américaine. Ça a été aussi une ville forte de lutte et lutte pour les droits civiques. C'est une ville qui est souvent citée comme étant une ville tolérante, mais c'est aussi une ville qui a connu de gros conflits et des conflits terribles, notamment en 1965. Je pense à la révolte des habitants du quartier noir Watts, mais aussi en 1992 avec ces émeutes dont vous vous souvenez certainement, où il y avait eu donc des centaines d'habitants de Los Angeles, particulièrement des jeunes noirs et latinos, qui avaient pris part à des pillages, des incendies criminels et des meurtres. Donc il me semble que cette photo induit donc un nouveau récit dans la ville aussi qui est décrite par Mike Davis dans Au-delà de Blade Runner, Los Angeles et l'imagination du désastre, comme pourtant la ville future, la préfiguration des modèles de la mégalopole moderne, caractérisée par la destruction de toute mixité sociale, par le cloisonnement strict des populations dans des quartiers réservés, laissés pour certains à l'abandon, tandis que des couches plus aisées se bunkérisent grâce à la vidéosurveillance et des milices de sécurité privées. Une ville que Mike Davis, décrit comme étant un état de guerre sociale à faible intensité. Voilà, donc Isaac Julien introduit une figure de l'altérité et j'avais juste envie de jouer à mon tour en disant que l'altérité était peut-être l'autre côté et l'envers du décor. Voilà, je vous remercie. Une ou deux questions, sinon je passe la parole à Dominique Chateau.
J'aimerais bien que vous nous reveniez les références du livre dont vous avez parlé, de David Amans.
Alors j'ai parlé de Gilles Roy, c'est ça, l'Atlantique Noir. Alors, je crois que j'en ai principalement deux. Le premier, c'est Stuart Hall, sur l'hybridation, et l'Atlantique Noir, sinon, de Gilles Roy. Et la référence exacte, je ne sais plus si je l'ai. Je vous la donnerai tout à l'heure, si vous voulez.
Éventuellement, on pourra peut-être reprendre des questions après mon intervention. Nous avons conçu nos interventions, évidemment, de manière très, très séparée. Mais c'est vrai qu'ayant ayant été impliqué depuis des années dans un centre de recherche de Martinique, Guadeloupe, Guyane, je suis très intéressé évidemment par les artistes qui ont été présentés par Emmanuel Chérel. En l'occurrence, c'est tout à fait des artistes qui rentrent dans les cadres de discussion qu'on peut avoir là-bas, et notamment évidemment autour de la créolité, de la créolisation. Bon, moi, je suis parti en fait sur une piste très différente. Hein. Une piste qui met en disons au premier plan l'esthétique. Tout à l'heure, j'ai rectifié en disant non, je ne suis pas historien de l'art, je suis esthéticien, et j'ajouterais que je suis un militant de l'esthétique. J'ai entendu aujourd'hui la galeriste de Oleg Kublik, vous savez, cet artiste dont on vient d'enlever des photos à la FIAC, et qui disait la phrase suivante: l'art n'est pas seulement lisse et esthétique. Alors j'avoue que j'ai sauté sur mon fauteuil en entendant ça à la radio, parce que bon, cette association entre lisse et esthétique, pour moi, c'est une chose horrible, quoi. Ça veut dire que le mot esthétique évoque l'idée de l'esthétisme, hein, alors que pour moi, ça évoque quelque chose de beaucoup plus important. Et qui, alors, par rapport à l'exposé qu'on vient d'entendre, je dirais, ma question pourrait être, étant donné tout ce que l'on apprend sur le contenu de l'art de ces artistes, en quoi sont-ils des artistes, finalement? Sont-ils des artistes par ce contenu? Mais alors, à ce moment-là, on l'est quand on est anthropologue, quand on est politicien, quand on est etc., ou le sont-ils autrement? Je ne vais pas vraiment répondre à cette question, surtout en ce qui les concerne. À mon avis, de toute façon, leur œuvre plaide pour eux, et à la limite, il n'y a pas besoin de poser cette question, mais ça fixe un petit peu le cadre dans lequel je veux réfléchir, puisqu'on m'a demandé au fond un petit peu de m'intéresser à la réception de l'art à partir de l'artiste plutôt qu'à partir de l'œuvre. Et donc j'essaie d'assumer ça un peu. En quoi la question de l'artiste éclaire-t-elle la réception de l'art, ou on pourrait dire plus concrètement, est-ce que le statut d'artiste influe sur le visiteur d'une exposition d'art, en prenant le mot exposition d'art peut-être au sens large, puisqu'on vient de voir que l'art se trouve non seulement aujourd'hui dans des lieux institutionnels d'exposition, mais aussi dans la rue. Je crois que c'est intéressant de repartir peut-être d'une situation antérieure. Disons, en arrière-fond, dans ce que je vais dire, il y a peut-être la question de savoir ce qu'il en est aujourd'hui du statut d'artiste. Le fait qu'il subit une mutation très importante, au point qu'on se demande si parler encore d'artiste, est-ce qui véritablement ce qui convient, ou si, comme l'a montré le sociologue Menger, si finalement tout le monde est devenu artiste d'une certaine façon par un nouveau mode de travail qui se serait répandu dans le monde capitaliste. Donc je pense qu'il est intéressant de repartir du statut de l'artiste tel qu'il a pu se définir à la fin du XIXe siècle, et puis persister sans doute au XXe siècle, tout en observant un certain nombre de modifications au cours du XXe siècle. Donc je prendrai, pour partir un peu dans ce sujet, une réponse de Baudelaire à la question que je viens de poser sur l'influence éventuelle de l'artiste sur la réception, et sur la manière dont le visiteur d'une exposition réagit. Baudelaire, dans le Salon de 1859, décrit le tableau comme, alors il dit fidèle et égal au rêve qu'il a enfanté, ce tableau doit être produit comme un monde, et en particulier, il le décrit comme une série de couches, il s'agit de peintures, évidemment, de peintures qui sont mises les unes sur les autres, et de sorte qu'à un certain moment, il en sort quelque chose qui est une forme d'harmonie, de perfection, etc. Et il dit, on pourrait comparer ce genre d'ouvrage à un travail purement manuel qui doit couvrir une certaine quantité d'espace en un temps déterminé, ou à une longue route divisée en un grand nombre d'étapes. Quand une étape est faite, elle n'est plus à faire, et quand toute la route est parcourue, l'artiste, dit-il, est délivré de son tableau. Donc, on pourrait dire que dans ces conditions, l'influence de l'artiste sur le récepteur, d'abord, ce seraient les traces de son travail que l'œuvre exhibe. Et puis, en même temps, ce que signale Baudelaire, c'est qu'il y a un moment où l'œuvre se sépare de l'artiste, vivant de sa propre vie. Et l'artiste en est délivré, ça veut dire évidemment qu'il peut, recommencer, il peut passer à l'œuvre suivante, suivant le principe d'un désir sans fin qui est, selon Paul Valéry, le propre du désir esthétique, tandis que manger assouvit la faim. C'est là où je reviens à mon idée de l'esthétique comme quelque chose de beaucoup plus important que l'esthétisme, et Paul Valéry le dit dans ce texte. Donc, alors pour le visiteur, l'œuvre, elle est là, c'est comme un objet fini, non pas comme l'état transitoire d'un processus de création. Alors évidemment, introduire des nuances en considérant par exemple ce qu'on a vu sur ce que fait David Amonds, par exemple, effectivement. Mais enfin bon, l'artiste, je dirais, passe par l'œuvre, le visiteur passe devant l'œuvre. Et la question, c'est est-ce qu'il perçoit quelque chose du processus de création, et donc, par là, quelques signes de l'artiste. Alors, il me semble que l'artiste, au plein sens du terme, alors cet artiste au plein sens du terme a existé à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, disons, dans la modernité, c'est défini par deux traits importants, l'autonomie et la critique. L'autonomie, c'est-à-dire un rôle social qui revendique en même temps sa singularité à l'égard du social. Et la critique, c'est-à-dire la capacité d'une action singulière à introduire toutes sortes de choses, des propositions, des formes, des comportements aussi, rebelles aux normes établies. Alors, l'autonomie ne signifie pas le fait d'être complètement abstrait du social, comme le vide par rapport à la matière, mais plutôt, l'autonomie, c'est justement la manière qu'a l'artiste d'être dans le social, c'est-à-dire y être tout en s'en distinguant. De même, je crois que la critique n'est pas l'absolu rejet de toute la culture, mais ce n'est pas une transgression totale. Et donc, la critique, la critique n'est pas une transgression totale, elle n'est pas une manière de se déconnecter totalement de tout contexte, au contraire, d'une certaine façon. Et il y a, à mon avis, un très beau texte de Hannah Arendt à ce sujet qui dit que, dans La crise de la culture, ce livre tout à fait fondamental, qui dit que l'artiste, au fond, porte le flambeau d'une attitude humaine singulière. Alors, moins parce que l'artiste manifesterait sa singularité, dit-il, que parce que, finalement, il produit des modèles de culture qui sont en même temps des productions décalées dans la société, voire même hostiles envers la société. Et elle présente la chose en disant, ce qui est remarquable, c'est que finalement, la civilisation, la société plutôt, a intégré ces écarts des artistes, finalement, qui sont devenus, au fond, la quintessence de son propre esprit, de l'esprit qui anime la civilisation. Et il se trouve que, justement, ces écarts, eh bien, sont des manifestations d'hostilité envers la société. Donc la société intègre ce qui lui est hostile. Alors on voit bien comment relier ces deux notions, donc je dis de l'autonomie et de la critique, parce que l'autonomie permet le décalage de la critique, et autant que la critique, évidemment, met à l'écart, et donc dans une situation d'autonomie. L'autonomie... Et alors, au fond, c'est parce que l'autonomie joue sur la scène du social, parce que l'autonomie de l'artiste n'est pas radicale, mais qu'elle est une manière de s'affirmer socialement, que la critique permet d'enrichir le patrimoine. Et donc, c'est comme ça que l'écart de l'œuvre rentre dans le donné culturel. Alors, je pense que ces deux, pour revenir au sujet que je vais développer, ces deux mêmes critères peuvent être considérés comme des éléments de la réception de l'œuvre. Disons, en passant du plan général du social à celui de la réception, on voit que les conditions de la présentation de l'œuvre au fond, réalise un prolongement de l'autonomie dans le champ de l'exposition du musée. L'exposition, c'est un dispositif de présentation publique qui sert à mettre en vue quelque chose qui passe ainsi du privé au public, par exemple de l'atelier au musée. L'exposition spécifiquement artistique, évidemment, sert aussi, à travers la présentation publique de l'œuvre, à une sorte de, ce que disent certains esthéticiens, une candidature à l'attestation artistique ou à l'appréciation artistique. Et je citerai là aussi Hans Robertius, comme précédemment on l'a cité, parce que il dit que le récepteur, et on peut appliquer ça aux visiteurs d'exposition, est au fond motivé par deux choses qui peuvent paraître contradictoires, mais qui se marient très bien en l'occurrence. Ce qu'il appelle un horizon d'attente, c'est-à-dire en général l'attente de l'autonomie de l'artistique, et puis toutes sortes d'attentes particulières liées à un genre, à un artiste aussi. Et puis en même temps, toutes sortes de décalages par rapport à une attente possible. Alors, ces décalages, ça peut aller de la variation dans une série d'œuvres, mais ça peut être aussi l'invention d'une nouvelle sorte de forme d'œuvre. Dans l'exposé précédent, on en a vu un certain nombre, hein, qui sont des... On ne peut pas leur donner un nom, un nom particulier. Ce sont des formes nouvelles ou plus ou moins une sorte de bricolage de formes hybrides. Donc ça peut être aussi ces variations, ça peut être le changement de style. La fonction critique donc rentre bien dans ce cadre. En fait, on pourrait dire qu'on va à l'exposition dans l'attente d'être surpris d'une certaine façon, surpris plus ou moins à l'égard de l'œuvre ou de la catégorie d'objet ou du phénomène que l'artiste réalise. Alors à l'égard de l'œuvre, je dis, ou de la catégorie d'objet ou de phénomène, etc., parce qu'il me semble que ce sera peut-être le second volet, qu'aujourd'hui, il y a peut-être une petite réserve à faire à ce sujet. En quelque sorte, je viens de discuter, là, dans mon sujet, avec les bons auteurs, Baudelaire, Valéry, Arendt et autres, Adorno, on peut en ajouter, peut-être en faisant semblant de croire que ce qu'ils ont dit, souvent avec un immense talent dont on est peut-être plus capable aujourd'hui, mais est une sorte de vérité intemporelle. Et là, comme l'artiste serait une figure intemporelle de la même façon. En fait, c'est une illusion qu'on peut briser si on jette sur le tapis les mutations postmodernes de l'artiste et de l'exposition. C'est vrai que quand j'ai parlé d'œuvre, j'aurais pu dire l'œuvre ou ce qui désormais en tient lieu. Je pense aux installations, à l'Internet, etc., puis un certain nombre d'objets qu'on a vus dans l'exposé précédent. Quand j'ai parlé du rapport à la culture, j'ai supposé entre elle et l'art une différence qui est de plus en plus contestée aujourd'hui. On semble de plus en plus penser que l'art s'est en quelque sorte intégré, même fondu dans la culture, et que l'art au sens ancien ne se distingue plus comme avant. Et puis, parlant de l'artiste, je ne sais plus très bien si comme je l'ai un peu annoncé tout à l'heure, si je ne parle pas d'un rôle social en voie de métamorphose, voire peut-être de disparition. Comment reposer la question que j'ai posée au début, dans un contexte postmoderne, un contexte de mutation socioculturelle où les repères anciens, l'œuvre, l'art et l'artiste, sont au moins ébranlés. Évidemment, c'est une énorme question. Enfin, je vais donner quelques petites pistes. Le philosophe John Dewey disait « Par tempérament, peut-être par inclination ou par aspiration, nous sommes tous des artistes. » Mais il ajoutait jusqu'à un certain point « Ce qui nous manque et ce qui distingue l'artiste en acte, car l'artiste a le pouvoir de s'emparer d'une sorte spéciale de matériaux et de le convertir en médium d'expression authentique. » John Dewey est un philosophe pragmatique qui est aujourd'hui, qui a été très, très récemment publié en français, qui a été pourtant très très influent dont on pense qu'il a sa théorie a une certaine consonance avec l'esthétique actuelle et ce qui se passe dans le monde postmoderne. Alors il dit donc nous sommes artistes jusqu'à un certain point, tout est dans le un certain point, et c'est vrai qu'il fait quand même référence à une figure de l'artiste, de ce, cet artiste au plein sens du terme dont je parlais, c'est-à-dire que nous sommes tous des artistes, sauf que certains d'entre nous ont la capacité de franchir les limites devant lesquelles d'autres s'arrêtent. Hein, donc on pourrait dire l'artiste pour Dewey, c'est quelqu'un qui lutte avec un médium pour en vue de se l'approprier, de convertir en art ce médium qui sinon pourrait servir de simple véhicule. Mais bon, cette manière de caractériser la motivation de l'artiste, qui conserve encore un petit peu peut-être le modèle de l'artisan, finalement dans le modèle de l'artiste, fait sans doute la part trop belle au pouvoir au savoir-faire. Ou au pouvoir de faire, au détriment peut-être de quelque chose qui est, disons, devenu l'élément essentiel de l'artiste aujourd'hui, dans, disons, ce qu'on appelle l'art contemporain, je dirais qui est moins un pouvoir de faire qu'un pouvoir d'instauration. Aujourd'hui, la fonction de fabrication de l'artiste qui modèle une œuvre plastique avec un médium, avec les moyens d'un médium, peinture, sculpture ou autre, ou médium hybride, etc., il me semble à rétrograder derrière une fonction d'instauration, alors qu'il peut porter sur quelque chose de fabriqué, sans ne plus être lié à un médium du tout, alors notamment des dispositifs intégrant plusieurs supports matériels ou virtuels. Ça peut porter aussi sur quelque chose de tout fait, un objet ordinaire ou industriel que l'on expose en le modifiant plus ou moins, ou encore une proposition d'exposition, hein, présentée comme un exposé didactique sur un sujet anthropologique ou bien comme un aménagement de l'espace d'exposition, etc., etc. Il y a un nombre considérable de formules, une expérience des limites, pourrait-on dire, effectivement, reprenant le terme de Solers, dans cet art d'installation, cet art ready-made ou cet art d'exposer, enfin, ce que j'appelle l'art d'exposer. On pourrait y ajouter aussi d'ailleurs le happening et la performance qui sont peut-être moins dominants aujourd'hui, mais restent de temps en temps quand même pratiqués. Et donc, alors. Ce qui me semble, c'est que dans ces conditions, l'objet qui fait candidature à l'appréciation artistique n'a plus systématiquement les caractéristiques artistiques ou esthétiques, si l'on veut, du passé. Il me semble que le visiteur est confronté à une situation paradoxale, y compris d'ailleurs dans l'exposition qui est ici, hein, avec ce titre qui est un bel oxymore du neutre intense. Donc, Le visiteur est confronté à une situation paradoxale où ce qu'il rencontre, au fond, est déclaré comme art par le fait même d'être exposé, sans présenter les bonnes vieilles caractéristiques anciennes de ce qu'on appelait l'art, finalement. Et donc, quelque chose est instauré comme art. Et alors, quelle sorte de schéma d'interprétation doit se tourner le visiteur, étant donné qu'il n'est plus sollicité systématiquement par un signe qui définirait comme art l'objet qu'il rencontre, jusqu'au point où parfois c'est le contexte d'exposition qui permet seul le contexte d'exposition, la manière dont l'exposition est faite, la situation des choses exposées dans l'espace d'exposition qui est le signe que on doit interpréter ça comme art. Donc, comment faire pour effectivement réussir cette interprétation comme art ? Je crois à l'idée d'instauration. C'est une idée d'ailleurs que je n'ai pas inventée. C'est le philosophe Souriau qui a eu cette idée sur la base d'ailleurs d'une réflexion philosophique très profonde et qu'il a appliquée à l'art. L'instauration, c'est-à-dire l'essentiel donc n'est plus un certain nombre de signes plastiques et donc toutes les valeurs qu'on peut attribuer à ces signes plastiques, mais c'est un phénomène qui apparaît devant nous et qui a surtout, pour Souriau, une valeur ontologique. au sens où il nous propose des êtres, des modes d'être, des mondes organisant des êtres qui sont différents de ce que nous avons l'habitude de regarder. C'est peut-être ça, la bonne interprétation, la bonne règle d'interprétation que le visiteur de l'exposition d'art contemporain aujourd'hui doit essayer d'utiliser. Sinon, effectivement, c'est un échec. Hein. Sinon, il peut très bien éventuellement considérer l'attestation artistique, finalement, n'est que un geste purement institutionnel qui lui est imposé comme ça et auquel il ne doit pas adhérer. Il me semble que dans ce qu'on a vu précédemment, on a cet élément d'instauration qui est fondamental. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que l'art contemporain, dont tout n'est pas bon, je ne suis pas un fanatique absolu de l'art contemporain. Je trouve qu'il y a des choses merveilleuses et d'autres qui sont à la limite de la supercherie. Mais en tout cas, ce que nous présente l'art contemporain, si ce qui nous est présenté a cette valeur d'instauration et cette force d'instauration, donc cette valeur ontologique, l'art contemporain échappe à ce moment-là à une autre menace que j'ai plus ou moins évoquée, qui pèse sur le fonctionnement de l'art et sur l'idée même que nous en avons. Alors, j'ai un peu posé la question tout à l'heure. Et finalement, est-ce ce qu'on continue à appeler art, est-ce que ça mérite encore ce nom, finalement? J'ai pas du tout dit ça pour me lamenter sur une disparition, mais plutôt en pensant qu'il faut prendre conscience d'une mutation. Le critique Clément Greenberg distinguait à juste titre, en ce qui concerne la période de la modernité, l'avant-gardisme et l'avant-gardité. C'est moins un peu compliqué, mais bon, ce qu'il veut dire, c'est que d'un côté, il y a la proclamation critique de l'action artistique dans des manifestes, et puis de l'autre côté, il y a la novation formelle des œuvres. Il plaidait pour la seconde plutôt que la première. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que l'engagement du manifeste, le côté militant de l'art, finalement, a quasiment disparu et a fait place à une activité promotionnelle de l'art contemporain. La recherche systématique, par ailleurs, du nouveau, de l'avant-gardité, a fait place à une sorte de dissémination de l'art dans le tout culturel. Une situation, d'ailleurs, déjà envisagée au milieu du XXe siècle par les philosophes allemands Adorno et Horkheimer, lorsque, fuyant le nazisme, ils découvraient aux États-Unis cette évolution qu'ils décrivaient dans ces termes. Les éléments inconciliables de la culture, l'art et le divertissement sont subordonnés à une seule fin et réduits aussi à une formule unique qui est fausse, la totalité de l'industrie culturelle. C'était en 1945. Je suis parti de la conception de l'œuvre comme représentant l'artiste en produisant un signe de création artistique qui désigne en retour l'artiste comme un être distingué, singulier. Je crois que les œuvres contemporaines continuent à produire cette sorte d'appréciation, c'est quand elles parviennent en même temps, disons, à produire les symptômes de la situation culturelle actuelle et de ce fonctionnement de l'industrie culturelle, pour parler comme Adorno et Horkheimer, et en même temps à produire à l'intérieur de ce contexte un écart. C'est-à-dire dans... Si on prend les différents genres, au fond, aujourd'hui, l'exposé didactique, le documentaire, le kitsch, eh bien, où est l'écart? C'est la question qu'on peut à chaque fois se poser. Est-ce que cet écart a encore ce caractère que soulignait Arendt d'être hostile à la société, et de parvenir à, disons, à profiter au patrimoine en tant qu'hostile? Cet écart, finalement... n'est-il pas devenu une demande sociale et culturelle, générale, sans que l'artiste puisse véritablement se l'approprier? Encore une fois, je pense, c'est une solution comme ça que je propose, je pense que l'art contemporain peut échapper à cette sorte de dissémination culturelle en réussissant une œuvre qui instaure quelque chose, un phénomène, des êtres, un monde. Je vous remercie.
On est trop dedans, parce qu'on est entre deux, parce qu'il n'y a pas encore suffisamment justement de recul pour créer des écarts, que les choses vont très vite, que l'information va vite, qu'il y a effectivement le monde des marchands, ça a toujours existé, mais qu'aujourd'hui peut-être c'est beaucoup plus visible, beaucoup plus présent, ne serait-ce qu'à travers... ces foires internationales et mondiales qui existent, dernièrement la FIAC, effectivement. Mais en même temps, vous avez fait référence aussi en disant il y a des nouvelles formes qui surgissent, vous avez fait référence à Internet, etc. Je pense qu'on est, on est en perte de repères dans le sens de... parce que les choses nous échappent et qu'on n'arrive pas à les mettre dans des cases comme nous les faisions auparavant, puisque les choses étaient bien définies, etc. Mais n'est-ce pas aussi une chance qu'on n'arrive pas, qu'on ne puisse pas aujourd'hui mettre les choses dans des cases ou les nommer ou les appréhender ou se reposer la question est-ce que c'est de l'art, etc. Parce que le copier-coller, il a toujours existé depuis le temps des cavernes. Hein. Et puis c'est bien que les gens copient, etc. Mais en même temps, qu'on sache qu'il est copié. Alors il y a une très bonne exposition à ce moment. Bah, il faut peut-être aller la voir. Bon, c'est Picasso qui a copié ses maîtres. Mais comment aussi... c'est une démarche de copier. Ça dépend comment on copie. Donc la notion de copie, de plagiat, en soi, dans l'œuvre d'art, ça a une histoire. Aujourd'hui, c'est vrai que on est peut-être en perte de repères, parce qu'il y a d'autres modes, comme vous avez fort justement signalé, d'expression, d'installation, est-ce que c'est encore de l'art, etc. Et précisément, c'est ça qui est intéressant, parce que nous-mêmes, et si on a mis ces soirées en place, c'est parce qu'effectivement, nous avons aussi ici du public qui circule et qui sont parfois effectivement confrontés à ce qu'ils pensent qu'est une œuvre, hein, au sens traditionnel du terme, comme vous l'avez dit, et parfois ce qu'ils peuvent voir ici d'exposer par des propositions de jeunes artistes ou passer par la moulinette et le regard d'un commissaire d'exposition invité. Moi, je pense que c'est intéressant qu'on soit dans une période où on est complètement noyé, qu'on n'ait plus ces espèces de repères. D'abord, ça libère. Moi, je crois que ça libère fortement de ne pas s'accrocher à des vieilles lunes, on va dire, et de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est à un moment donné, il va y avoir saturation, forcément. Forcément, il y a une saturation qui va se produire, comme ça s'est produit dans d'autres âges, dans d'autres époques, et qu'est-ce qui va faire émergence et qui va nommer cette chose comme étant émergente et va monter, nommer cette chose-là art. On ne sait pas, et c'est très bien. Voilà, bon, c'est juste que... écoute, on est dedans, on est dans une période où on est encore dedans, voilà. Alors, l'écart est compliqué et difficile pour caser les choses.
Mais par le fait qu'on est dedans, effectivement, on a tout intérêt à prendre un peu de recul et à essayer d'éviter d'avoir des idées définitives sur le sujet. Sur le fait d'être noyé, etc., je vous trouve quand même un peu optimiste. Mais enfin, moi, je ne trouve pas que ça ait que des aspects positifs. Parce que je pense que autant la diversité, la dissémination... pour revenir à l'exposé précédent, la créolisation Bon, c'est par exemple Glissant qui a développé des théories sur ce sujet-là très intéressantes, hein, sur la créolisation la créolité est une sorte de modèle de ce qui se passe finalement dans le mondialement. Ça c'est un aspect qui est très intéressant, mais l'aspect industrie culturelle, c'est un aspect qui pour moi pose beaucoup de problèmes, parce que en même temps qu'on voit la multiplicité des expériences d'art contemporain qui se passent, on voit quand même aussi qu'il y a un système du monde de l'art qui fonctionne maintenant sur des bases qui me semble extrêmement négative pour tout le monde. Hein, oui, non, mais vous aviez l'air d'être plutôt quand même dire voilà, on est noyé, finalement c'est bien, on se sent plus libre. Je suis pas sûr. Je crois qu'on est. Moi, je pense qu'on est plus libre quand on est face à des contraintes que l'on vis-à-vis desquelles on peut se révolter. Je crois que c'est ça la liberté, plutôt que de.
Il y a deux choses. J'ai jamais dit qu'il fallait se laisser ne pas avoir de recul par rapport à la pensée. C'est pas ça. C'est par rapport à la masse de choses qui sont produites aujourd'hui. C'est la profusion. C'est cette profusion-là qui est difficilement nommable. Juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'ai pas dit que l'industrie culturelle c'était bien, etc. C'est pas ça que j'ai dit du tout. Ça c'est un autre monde. C'est certain, c'est un marché, il faut dire, hein, c'est une économie. Bon, d'accord, ok. Alors, à côté de ça, effectivement, on voudrait être pur et puis penser que voilà, l'art c'est de la pureté. Non, c'est pas vrai. L'art c'est aussi effectivement un monde de marchands, etc. Hein, bon. Mais moi, ce que je... Comment ?
C'est absolument rien à voir avec le marché.
Voilà, donc c'est ce que je... Oui, mais enfin, le marché aussi achète des objets d'art. C'est pas pour là-bas, c'est des placements, on est d'accord ? Bon, d'accord, on peut résumer si vous voulez. Bon, j'en sais rien, moi, mais quand il y a des pièces qu'on aime bien qui sont achetées par un monsieur qui va le mettre dans son coffre et qu'on ne verra plus jamais, ça c'est bien un marchand qui fait du placement. Et pourtant, il a acheté quelque chose qu'on a tous nommé art à un moment donné. Bon, donc, il y a des formes d'expression qui sont au-delà des installations, des performances qui prennent place aujourd'hui. C'est ça que j'appelle une profusion qu'on a du mal aujourd'hui à mettre dans des cases et à le nommer. Maintenant, le phénomène de créolise. Merci. C'est très intéressant dans le sens où c'est une pensée aussi qui n'est pas propre à l'art en soi, mais à d'autres formes de pensée, qui est effectivement de voir comment on peut penser aujourd'hui les choses en termes, ça va rejoindre un autre débat hein, qui n'a rien à voir avec ici, mais en termes de sexe, de genre et de colonisation et de racisme. Ce sont des formes de penser les choses autrement que sous un angle juste voilà quoi. Donc c'est très intéressant. C'est tout.
Une petite remarque que je voulais faire à propos de la créolisation, justement, parce que c'est il y a un débat à ce sujet-là qui est très intéressant et qui aujourd'hui a des relents d'actualité très très forts. Étant donné l'élection présidentielle américaine en ce moment, la créolisation, c'est évidemment d'abord une conséquence d'un métissage, d'un mélange, etc., qui a fonctionné dans des lieux très très précis et souvent dans des îles d'ailleurs ou dans des endroits géographiquement situés, notamment dans des îles. Et qui a été, disons, que les gens, notamment dans la Caraïbe, se sont, ou à la Réunion, etc., se sont appropriés comme devenant en quelque sorte une façon de se distinguer du monde européen, colonial, etc., avec ses lois, ses règles, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais l'idée de Glissant, par exemple, d'Edouard Glissant, qui est un grand monsieur et un grand penseur, l'idée que finalement, au fond, aujourd'hui, il y aurait une sorte de retournement qui ferait que la créolisation serait quasiment le modèle du fonctionnement du monde, donc serait quasiment le moteur de la mondialisation. Elle est intéressante, mais bon, il y a un certain nombre de gens quand même qui ont proposé des objections en disant oui, mais est-ce que ça n'est pas finalement une sorte d'illusion, c'est-à-dire que la forme de créolité, si on peut dire, de la mondialisation, c'est plutôt la créolité Coca-Cola que la créolité Caraïbe. C'est-à-dire c'est finalement que la mondialisation est une sorte de machine à tout mélanger, mais qui mélange tout finalement sous l'égide de la société américaine dominante. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que... Pour moi, le débat, il est là. Et alors, juste pour revenir à ce que... Par exemple, aux artistes qu'on a vus avant, il me semble que ce qui fait David Amonds, par exemple, ce qui fait son intérêt, c'est... On l'a vu, c'est que justement, il produit des actions qui se situent en dehors de l'institution d'art contemporain, même s'il en fait partie aussi, d'une certaine façon. Mais surtout, c'est le fait qu'il a un engagement d'artiste qui est constant, qui se place sur plusieurs niveaux. Et c'est là où je posais tout à l'heure la question en disant, ben voilà, pour moi, il est artiste, pas seulement parce qu'il a un discours, disons, une idéologie qu'il met en acte dans son art, mais parce qu'il a une sorte d'engagement dans cet art qui est bien plus proche du modèle de l'artiste, bien défini, qu'on a connu, Baudelaire ou autre, que... De l'artiste contemporain qui a pignon sur rue, etc. Ouais. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Pour moi, et ce qui peut sauver l'art, pour moi, c'est ça. C'est, ce qui sauve l'art, ce sont des gens qui sont des artistes authentiques. Voilà.
Juste pour compléter, et après, je n'ai plus rien, c'est justement c'est que tout d'un coup, effectivement, l'histoire de la créolité, c'est qu'il met en centrale la question du pouvoir. Or, ce que je dis dans la façon de penser le monde aujourd'hui, comment on repose la question du pouvoir, comment on l'analyse. Donc, et la force, c'est justement à travers le colonialisme. Donc, il pose ce problème-là de colonialisme qui est très fort. Et penser les choses de pouvoir, à savoir les rapports de force qui gérissent ce monde, c'est le poser, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, en termes de sexe, parce que bon, de pouvoir entre hommes et femmes, hein, bon, c'est des trucs comme ça, on peut pas seulement penser le monde en opposition entre riches et pauvres, etc. Pour comprendre les mécanismes, il faut aussi les mettre à travers la question de la race et du colonialisme. Donc ça, c'est très bien posé. Donc il pose bien la question du pouvoir. Voilà, enfin, c'est comme ça que je l'entends. Il revisite.
Juste une question par rapport à l'art contemporain. Est-ce que c'est une formule économique? C'est pas. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que c'est une formule économique pour gagner d'argent, pour obtenir le pouvoir et pour guider aussi les masses? Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Parce que c'est, pour moi, c'est pas du tout un sort d'engagement d'artiste qui participe à ces installations, etc. Parce que ces gens-là, en fait, si vous voulez, ils ont trouvé les moyens tout simplement pour gagner d'argent. Ils n'ont été jamais artistes comme on attend classiquement, quoi.
Mais vous parlez de quelle personne? Parce que bon, c'est...
Non, je parle en général, si vous voulez, tout ce qui se passe actuellement par rapport à ce que vous avez parlé tout à l'heure.
Oui.
Installation, les cinémas, les trucs. ce qu'on appelle l'art contemporain, globalement.
Oui. Oui, oui, oui.
Et en général, en fait, c'est ce qui se passe, ce que je vois. Et je cherche la réponse. Est-ce que c'est une formule très très simple de gagner l'argent avec les moyens on peut dire considérable.
Oui, c'est-à-dire le problème, c'est qu'on un artiste contemporain gagne de l'argent quand il réussit à s'intégrer dans un circuit muséal. Ça d'ailleurs, bon, je l'avais dit tout à l'heure, ça c'est pas nouveau. Hein,
j'ai compris.
L'art contemporain, à cet égard, est dans la continuité de l'art moderne, et ça a commencé avec les premiers marchands qui ont commencé à entreposer, à stocker les tableaux des impressionnistes, etc. Ça a commencé de cette façon-là. Certains ont vendu, certains ont gagné de l'argent, d'autres n'ont pas gagné d'argent. Il y a un grand nombre d'artistes contemporains qui gagnent très peu de choses.
C'est pas ça. Hein.
Donc je veux dire, non mais dire là, est-ce que l'art contemporain est une manière de gagner de l'argent? C'est peut-être une manière
très
de gagner
facile,
de l'argent.
Très facile, je veux dire.
Très facile.
Oui, très facile.
Alors ça, je crois pas, non. Je crois que c'est pas facile. Hein. c'est pas évident.
Si vous voulez, je peux
parce
donner
que
un
exemple. Ça nécessite d'entrer dans des réseaux. Il faut avoir une certaine finesse par rapport au fonctionnement de ces réseaux. Il faut avoir envie de le faire aussi.
On parlait de côté d'artiste. Mais
oui.
pour un galeriste, c'est très simple. Vous allez à la rue. Vous verrez une personne qui fait quelque chose, vous dites, monsieur, je vais dans 2 sandwichs, faites ceci. Après demain, vous allez avoir 3 sandwichs, etc. Vous faites ça. Et tout ce que vous avez fait, tout va bien. Le reste, je vais faire derrière.
Bah c'est bien, en fait, vous savez comment faire. Alors.
Voilà, exactement. <C'est>...
Moi, je ne sais pas. Hein, je...
Donc, vous parlez de l'art.
Oui.
Est-ce que c'est de l'art?
C'est-à-dire, si on prend l'art par le biais de l'argent, c'est pas comme ça qu'on peut le définir comme de l'art. Mais
bien sûr.
Bon.
Mais est-ce qu'il se passe
Oui. Non, mais ça, est-ce que c'est.
Donc, c'est les questions de.
Est-ce
pouvoir.
Que c'est de l'art c'est... Non, pas seulement, parce qu'il y a des choses qui se vendent, des choses qui fonctionnent à un moment, puis après qui disparaissent complètement. En général, ce qu'on appelle l'art, c'est pas vraiment ce qui existe maintenant. C'est généralement c'est quelque chose qui a été jugé par le. Qui a été attesté historiquement, etc. Donc,
ce qu'on peut sentir. Quelque chose qu'on peut sentir. Pas expliquer.
Ah bon, je pense qu'il y a des galeristes, il y a des critiques, des historiens de l'art aussi qui ont cette intuition, oui, qui peuvent sentir effectivement. Il y en a qui s'en servent pour gagner de l'argent, pas d'autres. Il y en a d'autres qui font ça simplement pour, pour la gloire, quoi. Ou pour le plaisir.
En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez bien expliqué
merci.
La situation, quoi.
Non, je voulais juste, j'étais d'accord, je crois qu'il y a une différence. Enfin, pour moi, la question de la généralisation est toujours, de la généralité est toujours un vrai problème, d'une part. Et après, il me semble qu'on est dans une situation où il y a des gens qui cherchent, des gens qui ont une connaissance de ce qui s'est fait avant, qui ont vraiment peut-être une passion aussi, qui inventent une écriture, des formes. Et d'autres qui surfent sur la vague, mais ça s'est toujours produit. C'est pas un phénomène véritablement nouveau, si ce n'est peut-être qu'il est plus intense aujourd'hui, c'est tout.
En tout cas, si je peux me permettre de le dire, après Joseph Beuys, par rapport à l'installation, etc., il n'y avait rien. De la peinture, c'est arrêté au niveau de Picasso. Et, oui, bien sûr. Mais deuxième chose. Non, je veux dire par rapport à, globalement, par rapport à...
On m'a dit aussi après Duchamp, comment faire, etc. C'est toujours... C'est difficile de dire ça, parce qu'il y a toujours quand même quelqu'un qui arrive avec une idée intéressante, brillante, amusante, critique, etc., et qui réussit à proposer quelque chose de nouveau.
Oui, bien sûr, mais en même temps... Globalement, si vous voulez, bon, si on parle de Duchamp, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé la présentation de Pissoir, enfin, en
soi. Pas seulement, ça c'est bien
oui,
beaucoup d'autres choses.
Ouais. La Pissoir, elle était déjà inventée.
Non, mais il y a des gens qui considèrent qu'effectivement, après Duchamp, c'était difficile de faire quelque chose de vraiment, qui soit vraiment nouveau. Donc, vous voyez, on peut dire après Duchamp, après... après Beuys, après... On en trouvera d'autres.
Ouais.
C'est Jeff Koons aujourd'hui.
Ouais. s'il vous plaît.
Je dis ça pour plaisanter, évidemment.
Moi, j'avais juste une réflexion à faire. Enfin, je me demandais si Baudelaire avait été au top 10 des écrivains de son temps, s'il avait été très, très connu, etc. Parce que ce qui me frappe, c'est ce... Comment dire, cette espèce d'écrasement qui semble, qu'on semble subir face à l'industrie culturelle. Voilà. Finalement, ces rapports de dominé, dominant, est-ce qu'on ne les vit pas à l'intérieur de l'Europe, pour se limiter à l'Europe, mais ça peut être le mot. Est-ce qu'on ne les vit pas comme ça aussi, entre des gens qui sont engagés, qui cherchent des formes, qui sont différentes, donc peut-être difficilement discernables ou... Et puis une industrie culturelle qui est très forte.
Voilà. Oui, ben c'est la, vous décrivez
mais
la
c'est
situation.
C'est pas la fin de l'art, ça. C'est tout à fait autre chose. C'est pour ça.
Oui, je pense quand même qu'il y a une imbrication de ce qu'on appelle l'industrie culturelle et de l'art aujourd'hui qui est très forte. Et qui est un phénomène nouveau. Encore une fois, Adorno et Horkheimer, quand ils sont partis aux États-Unis, l'ont vu en 1945, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils l'ont vu, ils l'ont senti. Ils ont senti que l'art était agressé par l'industrie culturelle. Et je crois que cette situation s'est poursuivie, s'est amplifiée aujourd'hui, et je crois que la situation existe réellement. Maintenant, si finalement l'art contemporain, il a la caractéristique parfois de rentrer dans cette industrie culturelle. On le voit par exemple récemment, si on regarde par exemple de quoi on a parlé récemment, essentiellement au niveau de l'art. On a parlé de l'histoire de Jeff Koons, avec tout le réseau politico-magouille autour de ça. Bon, Jeff Koons à Versailles. On a parlé de Damien Hirst qui a été chez Sotheby's pour essayer de casser le marché de l'art. On n'a pas eu de nouvelles d'ailleurs. Apparemment, ça n'a pas véritablement fonctionné. On parle on peut prendre tout le Louvre dans les Émirats,
c'est l'aspect
etc.
spectaculaire de
oui,
notre société.
Oui.
Et on n'est pas obligé de rentrer complètement là-dedans ou de s'y soumettre.
Ah non, mais ça nous environne, ça fait partie de.
Tout à fait.
Je crois qu'aussi un artiste, c'est quelqu'un qui, par rapport à ça, a une position décalée, critique, comme on l'a vu par exemple des artistes qui ont été présentés tout à l'heure. Qui présentent justement mettre à Los Angeles finalement ces images de du Grand Nord etc. Bon, c'est une forme de pensée par rapport à la question du réchauffement etc. Enfin, il y a non seulement par rapport aussi à la question de la créolité comme on l'a vu, c'est ça ce que l'art peut faire par rapport à ça. Mais je crois que s'il n'y a pas un recul, un écart de l'art par rapport à l'industrie culturelle, c'est de l'industrie culturelle. Et on peut très bien faire de l'industrie culturelle. On peut faire des films des films à effets spéciaux. On peut faire des tas de choses comme ça. On peut faire on peut faire Disneyland. Hein. On peut faire Disneyland où on fait du spectacle de rue off à Avignon, par exemple. Je crois que c'est quand même ça le choix aujourd'hui, hein, me semble-t-il.
Moi, je suis d'accord sur l'idée qu'il y a un risque d'appauvrissement, un rôle affaibli de l'art, en tout cas. Donc, que l'art pourrait être plus actif, au sens participer plus au débat, à la construction des individus, de la société, etc. Et qu'aujourd'hui, même des belles propositions artistiques, même des pensées singulières, fortes, etc., parfois, dans la manière dont elles sont présentées ou accaparées par le système, qu'elles le veuillent ou non, perdent en puissance, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des médias, justement, qui parlent très mal de l'art contemporain, justement ? Peut-être que... Pardon, moi.
Non, ça, c'est pour l'enregistrement.
Ah, pardon, excusez-moi.
Non, je disais, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des médias qui parlent très mal de l'art contemporain? Justement, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce qui se passait récemment? On entend parler soit du scandale des photos décrochées, soit des scandales liés à l'argent. Donc voilà, c'est aussi, alors qu'il y a tellement d'autres belles formes d'art contemporain dont on ne parle jamais. Donc le grand public, est-ce qu'il reçoit de l'art contemporain? C'est assez dramatique aujourd'hui par rapport aux médias, quoi. Grand public, pas aux médias spécialisés.
Ben on en vient toujours à la critique des médias. Les médias qui deviennent responsables de... C'est comme les hommes politiques, quoi, finalement. Quand ça ne va pas, c'est toujours à cause des médias. Je pense que oui, mais en même temps, moi, je suis frappé par le fait que l'art contemporain est davantage rentré qu'il y a, je sais pas, 20 ans, 10 ans, dans le discours des gens. C'est-à-dire qu'on en parle comme ça, on s'en moque éventuellement, mais c'est peut-être là ce qu'il faut craindre d'une certaine manière. C'est qu'il il perde un peu son caractère, je dirais, ésotérique. Je pense qu'il faut qu'il y ait cet ésotérisme comme une sorte de provocation vis-à-vis de nous-mêmes, finalement, de l'art. Donc je ne serais pas très heureux si je voyais l'art contemporain devenir, disons, le chouchou des médias. Voilà.
Oui, mais enfin, on ne peut pas conclure comme ça. Dans le sens où on n'est pas nombreux ce soir parce que c'est les vacances scolaires et que même nos adhérents, ils sont peut-être partis. mais ce n'est pas significatif dans le sens où on fait partie d'un des lieux de réseau, de lieux d'art contemporain qui se distingue par le travail de fond que l'on fait avec nos publics. Ce n'est pas l'usine, quoi. Voilà, donc on prend du temps, c'est des... moyen de résister à ce rouleau compresseur que sont les majors et non pas forcément uniquement dans les arts plastiques. Vous avez ça en musique, vous avez ça partout dans toutes les formes d'expression qui sont happées, sucées, jetées aussitôt. Bon, là, on passe à autre chose parce que ça rapporte. Hein. Bon, ça, on connaît le système. Mais peut-on dire que c'est la fin du monde? Bon, je crois pas. Je pense que c'est on vit des temps compliqués, comme il y en a eu par le passé, qu'il y a des crises, y compris dans le monde de la création. Et puis, je sais pas, il y a des magies comme ça qui se produisent, où les systèmes s'inversent, où il y a une espèce de prise en main des choses. Bon, ça c'est le grand jour, mais entre temps il y a quand même des choses qui se font, que ce soit au niveau du cinéma, c'est pareil, il y a les créateurs qui montrent leur maison, des choses indépendantes, etc. C'est aussi pareil pour des artistes qui se mettent dans des friches, etc., qui explorent hors des institutions des formes d'expression artistique. On aime, on n'aime pas, c'est ça que je dis, il y a une profusion de création de choses avec différentes formes de supports, que ce soit avec des matières nobles ou pas moins nobles. Mais toujours est-il qu'il y a des choses qui se font. On peut pas dire qu'il ne se passe rien. Voilà, à côté de cette industrie culturelle, hein, qui est là, que ce soit, je reviens, ça peut être au niveau de la danse, ça peut être au niveau du théâtre. C'est idem et puis c'est tout. Mais à côté de ça, il y a des gens qui résistent. C'est-à-dire qu'il faut en sorte qu'effectivement, que rien ne vient de rien. Et puis moi, je sais pas pourquoi on met Baudelaire. C'est une autre époque. C'était bon. Duchamp, il s'est fait aussi décrocher. Son descendant l'escalier s'est fait aussi décrocher à un moment donné. Bon, c'est des périodes. Donc on peut pas se résoudre à dire que tout est mort. Ça, je refuse mais vraiment. Mais si, parce qu'on a l'impression que c'est la fin, qu'il n'y a plus de possibilités. Moi, c'est ce que que le sentiment que ça me laisse. Oui, mais il faut faire confiance aux autres générations.
En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai voulu dire, et je pense que justement ce qu'on a pu dire sur le le rôle que l'art contemporain, le rôle critique, le rôle de différence d'écart de l'art contemporain peut avoir, bah, ça inclut ce que vous faites ici, justement. C'est qui me semble, comme vous venez de le dire, à l'écart de certains grands circuits, disons, qui ronronnent par ailleurs. Voilà, donc, continuez et bravo.
Qui sont passés ici il y a 4-5 ans, mais maintenant qui font partie du marché, quoi. Vous voyez, donc...
mais bien sûr.
C'est un système extrêmement...
Ah oui, non, mais...
Et ouais. Bon, je pense qu'effectivement, il y a aussi lieu de se poser des questions, d'observer précisément les phénomènes et de remarquer un certain nombre de choses qui peuvent être particulièrement gênantes, comme il y a aussi lieu de se réjouir en voyant des espaces de création, voilà. Bon, moi, je rejoins quand même la position qui a été évoquée, à savoir qu'il y a une tendance à un affaiblissement, je trouve, de l'art aujourd'hui.
Oui, il y a un système qui s'épuise.
Il y a un certain nombre de conditions socio-économiques, politiques, ça n'a pas lieu d'être qu'avec la... Voilà, que lié à... Voilà, c'est un contexte. Oui, il peut y avoir des très belles propositions. Il y a des propositions en Occident ou ailleurs aussi. Il y a des mondes, il y a plein de mondes. Mais après, il y a aussi des grandes contradictions, des rapports de domination, de force, etc., qui s'exercent. Donc, ça rend... voilà, je pense effectivement qu'il faut se poser la question du rapport de force et de domination aujourd'hui à l'échelle internationale.
Et puis aussi peut-être de savoir ce qui est ce qui devient visible dans ce qui existe, parce que bon, justement, il y a sans doute des artistes qui sont passés ici et effectivement qui sont ensuite rentrés dans le marché de l'art, mais le problème aussi c'est de savoir un lieu comme ici quelle est sa visibilité et dans quelle mesure effectivement ce qui s'y fait passe au-delà, disons, du cercle du lieu. Je dis ça parce que je pensais à samedi dernier, j'étais à l'ouverture des JCC à Tunis, avenue Bourguiba, mais à Tunis cette fois-ci. Et bon, les JCC, c'est un festival du cinéma qui regroupe des films à la fois documentaires et de fiction de toute l'ère, disons, du Maghreb, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et bon, le programme, les films présentés sont en nombre très important et sont d'une qualité extraordinaire. Hein. Donc c'est, mais on sait que pratiquement une infime minorité des spectateurs européens verront ces films. Une infime minorité. Donc c'est voilà, c'est ça aussi le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a des grands circuits de distribution qui sont dans l'audience, qui sont dans le etc. Et puis à côté, il y a une myriade de choses qui se fait, que ça soit en cinéma ou en art contemporain, et qui est vu par des, alors parfois d'ailleurs qui est vu par des espèces de réseaux très compliqués internationaux, hein, mais qui ne sont pas les choses spectaculaires vues par tout le monde, quoi. Je crois qu'il faut encourager ce genre de choses, effectivement.